Salut tout le monde, c'est le petit Pato qui est de retour pour un troisième grand tour. Cette fois-ci, le Tour d'Espagne, la Vuelta 2024. Pour en parler, eh bien comme à chaque épisode, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains.
Salut,
Salut
salut
tout
tout
le
le
monde.
monde.
Alors, cette Vuelta, il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a déjà une certitude, ce ne sera pas Pogacar qui va le remporter, puisque le vainqueur du Giro et du Tour de France fait l'impasse. Il n'y aura pas de fantastique et historique triplé, et il n'y aura pas plus non plus de Jonas Vingegaard sur cette Vuelta. Et donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, Alexis Damien, un grand tour sans Pogacar et sans Vingegaard, et on pourrait même rajouter sans Remco Evenepoel. Est-ce que c'est un grand tour qui vous intéresse, peut-être même qui vous passionne, ou au contraire, bon, c'est un grand tour pour lequel finalement vous n'avez que peu d'intérêt en cette fin de saison.
Ça va être intéressant. De toute façon, ce sera le grand tour le plus ouvert, donc ça va être intéressant. Maintenant, alors je vais être exprès un peu provocateur, mais vous préférez voir Federer contre Verdasco ou Verdasco contre Feliciano Lopez? Hein? Tu préfères voir, je sais pas moi, le Barça contre Malines ou Malines cavé au stand? Alors j'exagère parce que les mecs sont pas si loin, il n'y a pas 50 divisions d'écart et c'est peut-être un sport, le vélo, où la différence ne se marque pas autant dans le spectacle. C'est-à-dire que voir jouer un Federer ou voir jouer le Barça, c'est très beau. Voir Pogacar rouler, c'est beau, hein, mais ça se marque peut-être moins que dans d'autres sports. Donc voilà, je préfère toujours quand les meilleurs sont là, mais ça peut être sympa quand même quand on a des courses où on ne connaît pas le vainqueur à l'avance.
Ouais, moi voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, quand on a eu des Federer Dasco et qu'on a vu Federer en démonstration toute l'année, moi, ça me fait quand même plaisir de voir une fois sur l'année un petit Verdasco Feliciano Lopez. Donc oui, ça me fait plaisir ce grand tour sans Pogacar, sans Vingegaard. Et comme tu dis, Romain, on peut rajouter Remco parce qu'on a quand même vu qu'il était largement au-dessus de tous les autres, hormis les deux précités. Donc oui, ça me fait plaisir, mais parce que on a eu deux grands tours avec Pogacar et un deuxième avec Vingegaard, et parce qu'on a eu une saison où on a eu très peu de courses à suspense. Nulle part en fait. Hein. La seule course à suspense qu'on a eue, c'est Milan-San Remo limite. Donc oui, pour ces raisons-là, je suis content d'avoir un grand tour sur les trois voilà, plus ouvert, même si il y a quand même Roglic. Hein. Roglic, on ne connaît pas encore sa force ni sa forme avec Bora. Il y a un gros collectif UAE, mais au final, on va en parler, je suppose. Il y a quelques jolis noms qui vont pouvoir même se faire la bagarre. Donc oui, c'est intéressant à suivre pour changer, on va dire.
On se souvient que la saison passée, on avait dit que justement la Vuelta était un grand tour, peut-être de raccroc pour certains, mais qu'au final, c'était certainement, depuis plusieurs années, le grand tour qui avait la startlist la plus ouverte. Et donc, ben, les possibilités les plus nombreuses de voir certains coureurs s'illustrer, avec malgré tout quelques beaux noms au départ. On est loin de l'époque où Chris Horner, avec tout le respect que je lui dois, remportait un Tour d'Espagne. Ici, on a effectivement, si on met de côté finalement Pogacar, Vingegaard et donc Remco Evenepoel, bah, on a pratiquement ce qui se fait de mieux dans le peloton World Tour cette saison aussi. Et tu l'as dit, on va malgré tout avoir aussi des très gros blocs comme ce qu'on a pu voir sur le Tour de France. Et le premier, tu l'as cité, bah, c'est UAE qui sort victorieux de deux tours, hein, le Giro et le Tour de France avec l'OVNI Pogacar. Ici, bah, voilà, le Slovène n'est pas là, mais il y a encore du beau monde. Est-ce que UAE peut faire le triplé en réponse finalement à ce que Visma avait fait avec trois coureurs différents, lui par contre, mais avec ce que Visma avait fait l'année passée?
Pour moi, ils peuvent clairement le faire. Hein. Damiez Almeida ont quand même montré de très belles choses, et peut-être même plus que tous les autres coureurs présents sur cette Volta. Maintenant, il n'y a pas que, hein. On va parler, je pense qu'on va passer les noms en revue. Mais UAE sont en forme, on l'a vu encore sur la Classico, ils sont en forme depuis le début de l'année, ils sont, voilà, assez superlatif pour les décrire. Donc, ils vont partir favoris, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres concurrents. Et une chose que j'ai quand même envie de dire, c'est que tous les astres semblent alignés, quoique, on va en parler, pour que mon pari foot 2024 se réalise. Hein.
Mmh.
Je rappelle, j'avais dit Visma, pas de grand tour pour Visma en 2024. Donc si UAE vient faire le triplé comme on peut l'envisager très clairement, ben, je n'y croyais pas moi-même, mais le pari fou sera réalisé.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'ai juste Un tout petit truc qui m'a fait tiquer, mais je pourrais même être d'accord. C'est juste, on dit ils sont favoris, je sais quand même pas si c'est les favoris. On disait c'est un grand tour ouvert. En fait, j'ai l'impression que je peux citer cinq noms, cinq, six noms même, tout aussi crédibles les uns que les autres. Donc je ne sais pas s'ils sont favoris. Ils ont été impressionnants sur le tour, mais justement, ils étaient sur le tour. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça ne va pas jouer? Ils doublent quand même. Et alors, il y en avait un qui n'a pas été très loin sur le tour, mais qui ne sera pas là, c'est Ayuso. L'histoire Ayuso, ça peut peut-être leur coûter aussi.
Ou au contraire, ça peut peut-être les libérer. On ne connaît pas les relations internes.
Oui, bien
Peut-être qu'elle
sûr.
va être ravie qu'Ayuso ne soit pas là.
Non, mais en fait, oui. Mais tu as raison. Quand je dis ça peut peut-être leur coûter, c'est sur le potentiel coureur. Mais vu ce qui s'est passé, je pense que c'est mieux qu'ils ne soient pas là. Ça, on est d'accord, totalement d'accord là-dessus. Enfin, je ne sais pas, on n'est pas en interne, mais s'ils prennent cette décision-là, c'est qu'ils ont les bonnes raisons de la prendre. Voilà, après. Pouvoir, ils peuvent de toute façon, ça c'est clair, avec une équipe pareille, parce qu'on a ces deux-là. Alors, je crois pas qu'il va aller gagner son grand tour, mais je suis quand même curieux de voir Del Toro aussi, par exemple. Oui, ils ont une super belle équipe. Le faire, ils peuvent le faire.
Et dans ce collectif, ben voilà, c'est vrai qu'a priori, en tous les cas, les deux leaders, les deux co-leaders seront Almeida et Adam Yates, en absence donc d'Ayuso. Quel est peut-être le coureur de ces deux noms que vous envisagez comme ben, futur vainqueur, si effectivement c'était un UAE qui devait l'emporter?
Est-ce qu'Almeida peut gagner, Alexis? Est-ce qu'Almeida peut gagner une grande course?
Ben franchement, on en rigole parce que j'ai toujours dit que non, mais j'aurais jamais cru dire ça il y a encore un an. Mais pour moi, Yates et Almeida sont les deux favoris vu ce qu'on a vu cette année. Mais la marge sur les autres est beaucoup plus courte que si on avait un Pogacar ou un Vingegaard de présent, ça c'est clair. Maintenant, parmi les deux, j'ai quand même envie de dire Yates, même si ouais, c'est dur à dire en fait. Hein.
Et surtout, voilà, honnêtement, j'ai du mal à me positionner. Mais surtout, Romain ou Alexis, comment est-ce que vous les imaginez rouler? Parce
Bah
que
ouais.
est-ce qu'ils vont partir vraiment en co-leader? On l'a vu sur, c'était quoi, la Suisse ou la Romandie, où ils ont vraiment, à la base, Almeida faisait l'équipier, et puis Almeida s'est montré tellement fort que c'était bah, chacun son côté, quoi. Je ne sais pas très bien comment ils vont aborder cette Vuelta.
J'imagine que ce sera déterminé par les watts à l'entraînement et par le parcours. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils feront un scénario où on fait attaquer Yates ou alors on fait attaquer Almeida pour faire rouler les autres et l'autre reste dans les roues. Je suis pas sûr qu'on verra comme en Suisse Almeida rouler pour Yates parce qu'il y a de quoi faire. Mais si Almeida prend un tir après deux étapes, là ce sera clair. Après la stratégie de base, moi je les vois plus partir en co-leader quand même.
Pour toi, Romain, ça correspond mieux à Yates ou à Almeida, ce parcours? Parce qu'à Almeida, on sait aussi que c'est un diesel. Maintenant, il roule bien, il y a du chrono, enfin, Yates roule pas mal non plus. Hein, mais...
Pour beaucoup de raisons, j'aurais tendance à pointer plutôt Adam Yates. Il y a effectivement ce côté diesel qui ne réussit pas, parce que on sait qu'en Espagne, ce n'est pas nécessairement des longs cols, hein, c'est souvent des petites côtes bien raides. Il faut être explosif en plus d'être bon grimpeur. Et Almeida, alors, a montré cette saison ce qui n'est pas montré, je trouve, jusqu'ici. On avait, rappelez-vous, en début de saison, on disait que les coureurs qui arrivent chez UAE passent toujours une étape supplémentaire et que, voilà, en ce qui concerne Almeida, on attendait un petit peu de voir ça. Je pense qu'on l'a vu cette année-ci, mais pour moi, il reste malgré tout encore inférieur dans cet exercice à Adam Yates. Et puis, c'est vrai que le Portugais est quand même plus jeune, c'est la première fois qu'il va faire deux grands tours sur une saison, si je ne m'abuse. Donc, il y a aussi quand même pas mal d'inconnus en ce qui le concerne. Dernière chose, sur le Tour de France récemment, il s'est quand même battu pour sa place. Même s'il a fait, il a beaucoup roulé évidemment pour Pogacar, il ne s'est jamais relevé. Alors, sans se relever non plus du tout au tout, Adam Yates n'a pas donné cette même impression de vouloir absolument se battre pour une place au classement général. Et donc, bah, ceci fait que peut-être que Almeida laissait un peu plus de force sous les routes du Tour que Yates. Et donc, pour toutes ces raisons, j'aurais tendance à pointer Adam Yates. Maintenant, on l'a vu l'année passée, vous pouvez venir avec deux super leaders. Et c'est le troisième larron qui tire les marrons du feu et qui s'impose. Et donc, bah, effectivement,
Pavel
comment vont-ils
Sivakov.
rouler? Bah, il y a Pavel Sivakov. On a évoqué Isaac Del Toro. C'est sans doute encore un petit peu tôt, mais on dit tellement de bien du Mexicain qu'il ne faut peut-être pas non plus l'évacuer. Est-ce qu'un McNulty, qui serait dans une bonne forme, qui n'a pas fait de grand tour, hein, je pense qu'il n'était pas sur le Giro de mémoire, Est-ce qu'un McNulty ne peut pas aussi créer un peu la surprise? Donc voilà, finalement, UAE apparaît comme, je trouve, le collectif le plus costaud, le plus impressionnant. Je suis d'accord avec toi, Damien, l'absence d'Ayuso fait retomber un peu cette idée de domination. Par contre, il faut aussi peut-être retomber un peu plus de pression sur les épaules d'Almeida et de Yates. Donc ce sera à voir, parce qu'il reste quand même beaucoup beaucoup d'inconnus pour l'équipe émiratie.
Pour conclure, je suis assez d'accord sur le. T'as bien pointé du doigt le parcours de la Volta qui correspond quand même beaucoup mieux à Yates que, voire à un Del Toro en fait, hein, qu'à un Almeida. Donc ça va être intéressant à suivre.
Oui. Après, voilà, il n'y a pas que UAE. Et l'autre gros bloc qu'on va regarder forcément, hein, depuis 2 ans, même 3 ans, on ne regarde plus que ces deux équipes-là dans un premier temps. Ben, c'est l'équipe Visma. Ben, l'équipe Visma qui, effectivement, vient sans Vingegaard, mais vient avec le leader en titre, enfin le champion en titre de cette Volta, Sepp Kuss, qui a montré sur le Tour de Burgos que, ben, contrairement à ce qu'on avait pu penser durant toute cette première partie de saison, il arrive en jambes. Il n'a pas fait cette fois-ci le Giro et le Tour de France, donc il arrive a priori plutôt frais. Il a eu le temps de digérer cette victoire. Est-ce que Sepp Kuss, c'est finalement pour vous le favori à sa succession? Ou est-ce que Sepp Kuss part comme un outsider derrière UAE, mais avec une équipe Visma qui, bah, sur papier, c'est du très costaud?
Entre les deux pour moi.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne vais pas le mettre favori numéro un, mais il est plus qu'outsider. Et ça, j'avais aucun doute là-dessus. Je sais que Visma l'a mis en laboratoire toute l'année et il va arriver super fort sur cette Volta. Ça, j'en ai aucun doute.
Ouais, c'est une énigme, moi, c'est que j'arrive pas à. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse gagner la Vuelta l'année passée, par exemple. Donc, j'ai toujours du mal à le positionner. Maintenant, je le mettrai pas en favori parce que de toute façon, je le mettrai pas en favori, même en dehors du AE. Pour moi, il y a d'autres mecs que je mets avant lui. Mais du coup, je peux rien exclure avec ce gars quand j'ai vu sa Vuelta de l'année dernière, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il sera à son meilleur niveau, donc éventuellement à son niveau de la Volta l'année dernière. Donc lui, j'ai aucun doute sur son niveau. Maintenant, la question qui reste à déterminer, enfin la réponse, ce n'est pas son niveau à lui, mais plutôt le niveau des autres, qui pourra le battre. Et ça, en effet, je pense que voilà, ce n'est pas Vingegaard non plus. Il y en a qui peuvent le battre, à commencer par les UAE, mais pas que. Roglic aussi, hein, bien sûr.
Et
Ouais,
on
ouais.
parlait des doubles têtes minimum chez UAE. Kian, c'est pur équipier pour vous?
À mon sens, oui. À mon sens, oui, parce que son objectif était le Giro. Et ici, tu viens quand même dans l'équipe du tenant du titre. Et donc, je ne serais pas étonné que Kian, en tout cas en début de course, tant que Kuss reste dans la course à la victoire finale, que Kian fasse office d'équipier. Et d'ailleurs, on n'a pas du collectif du AE, on a évoqué le collectif Visma, mais ça reste du costaud, peut-être un peu vieillissant si on met Kian de côté, mais c'est quand même Gesink, Kruiswijk, on sait que c'est des gars sur lesquels tu peux toujours compter. Kelderman qui a montré aussi de fameuses choses ces dernières semaines. Donc il y a là quand même quelque chose d'assez intéressant. Peut-être plus que Kian, la question moi, que je me pose au niveau de Visma, c'est le rôle de Wout van Aert, qui est annoncé ici au départ. Si on rajoute un Ben Tullett, par exemple, dans l'équipe, est-ce qu'on a besoin d'un Wout van Aert qui va travailler en montagne pour Kuss? Je suis pas sûr, mais qu'est-ce que Wout van Aert va aller faire après sur ce Tour d'Espagne? On avait évoqué sa présence au Tour de France pour pouvoir prendre des minutes dans les jambes avant la course des JO. Ici, il vient quoi? Il vient préparer son championnat du monde?
Exactement pour moi. Je pense que, en tout cas, dans la tête de Van Aert, cette Volta sert à deux choses, préparer les mondiaux mieux que les dernières années et gagner un World Tour enfin après 500 jours. Maintenant, Visma va, c'est très probable. Que Visma, à un moment donné, lui demande de rouler pour sa puce. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte. Même si en haute montagne, je ne pense pas que ce sera le cas parce qu'il y a de quoi faire. Mais dans la vallée ou autre, je pense qu'il devra quand même être mis à contribution de temps en temps.
C'est pas incompatible en fait. Il va bosser et bah, ça lui fera du bien aussi en vue des échéances futures.
Et Kian Uytebroeks, tu lançais la question, mais tu n'y as pas répondu. Est-ce que tu vois Kian Uytebroeks faire plus que le rôle de simple équipier?
Non, je le vois faire équipier. Après, est-ce que pour autant il peut pas faire un top 10 en faisant l'équipier? Ça, j'en sais rien. Je vais pas me prononcer là-dessus. Mais non, pour moi, clairement, il sera équipier.
Ce que je peux à la limite envisager pour Ken, ce serait un rôle libre, d'autant plus qu'apparemment il est en forme d'après des sources absolument pas officielles. Mais le plus probable pour moi, ce serait quand même qu'il soit équipier, parce qu'on parle, comme tu l'as dit, du tenant du titre. Et oui, son objectif était le Giro, donc.
Oui, mais c'est vrai que comme souvent, quand on prépare des courses, on enregistre évidemment quelques jours avant le début, donc on n'a pas encore la start list définitive. Tolit est dans la start list provisoire de Visma, mais les choses peuvent changer. On a dit UAE d'un côté, Visma de l'autre, c'est un petit peu la réalité de ces grands tours depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il y a finalement? Parce que tu l'as déjà évoqué, Damien, il y a pas mal d'autres équipes, en tout cas pas mal d'autres coureurs derrière qui peuvent jouer bah, peut-être un rôle d'arbitre dans un premier temps, voire même plus. On sait qu'il y a évidemment Primoz Roglic qui va arriver, bah, comme finalement chaque année depuis 4-5 ans, revanchard sur cette Vuelta, puisque c'est jamais la Vuelta qui vise, mais c'est toujours la Vuelta sur laquelle il a l'occasion de performer. Avec ceci près que ça fait 2 ans qu'il n'accroche plus cette Vuelta. On se rappelle qu'il y a 2 ans, bah, il a abandonné alors qu'il essayait de revenir sur Remco. Et la saison passée, il aurait bien aimé pouvoir viser plus qu'un simple podium, mais les consignes d'équipe, manifestement, ont fait que bah, c'est Sepkoski qui a pris la victoire. Ça a probablement aidé, voire accéléré le départ de Roglic vers cette nouvelle structure, Bora, qui vient d'accueillir Red Bull. Alors on peut imaginer que l'apport bah, assez impressionnant, hein, on peut l'imaginer en tous les cas d'un point de vue financier, de Red Bull ne va pas nécessairement avoir une incidence directe sur l'équipe. On a entendu parler déjà de quelques noms de recrutement. Donc là, effectivement, poisson prochaine, ça va certainement rééquilibrer certaines choses. Mais en tout cas, pour cette Vuelta, pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que vous attendez finalement de Primoz Roglic sur ce tour? Et puis on évoquera par après, évidemment, les autres arbitres de cette Vuelta 2024.
Moi, je ne sais pas ce qu'Alexis en pense, mais pour moi, c'est peut-être le plus gros bloc. Hein.
Ben, j'allais le
Enfin,
dire. Avant de
derrière,
parler de
mais.
Roglic en lui-même, on a parlé de deux gros blocs, mais Bora, impressionnant. Hein. Vlasov, Martinez, Roglic, Lipovic.
Ouais,
Rien que
et
ça.
pas Aléotti en plus. Enfin bon, tu me diras, c'est
Ouais,
pas un
allez,
énorme nom, mais c'est pas mal, quoi. Hein, je veux dire, ouais.
En
Oui,
attendant
donc.
les deux prochains, ouais.
Oui, c'est ça. Donc, on a là, si les mecs ils sont à leur niveau, maintenant, il faut voir. Le niveau de chacun, évidemment, on a vu comment Vlasov a quitté le tour, Roglic, on ne sait jamais très bien. Et pardon. Et Dani Martinez, bah, il vient de me décevoir là sur la Classico A, mais on va pas le juger que là-dessus. Donc ouais, si eux ils arrivent tous en forme, c'est un bloc incroyable. Et jusqu'à preuve du contraire, hein, Roglic était encore un fantastique. Il sort peut-être tout doucement de la liste, mais c'est quand même le plus grand nom de la liste là au départ. Donc pour moi, c'est le plus gros bloc avec la plus grosse individualité. Ça ne veut
Ouais.
pas dire qu'il va gagner, hein, mais.
Et finalement, avec Martinez, on a le deuxième homme le plus fort derrière Pogacar sur le Giro, qui a très très peu couru depuis. Il a fait uniquement la course olympique et la Classico A, donc il faut le temps qu'il revienne évidemment en course. Tu l'as dit, hein, Vlasov, on sait que voilà, il était tombé avec fracture de je ne sais même plus quoi, mais il faudra voir dans quel état physique il va arriver. Bah, Roglic aussi. Hein. Là, pour l'instant, les nouvelles ne sont pas très très rassurantes. On a vu que ce soit le Tour de Burgos ou la Classico A, il ne s'est pas aligné. Là aussi, là encore, grosse inconnue sur son état de. Bah, peut-être même pas l'état de forme, mais l'état physique, tout simplement, du Slovène. Mais sinon, effectivement, avec un petit Lipovic qu'on avait vu très en forme en début de saison, qu'on a pu revoir sous le Giro avant, malheureusement, de devoir abandonner pour raison de Covid ou de maladie, je ne sais plus. Mais donc, effectivement, beau collectif.
Ineos, c'est la dégringolade. Il y a quelques années, c'était Ineos les super, les fantastiques. Et là, maintenant, ça veut dire qu'on met encore Bora. Donc, ça fait déjà trois équipes devant Ineos. Quoique, je ne sais pas si je mettrais Ineos derrière Visma,
Ouais,
sur le
Ineos
collectif.
a une
Hein.
belle équipe pour le moment. Ils ont que 5 coureurs, mais ils ont une belle équipe. Hein. On y viendra, mais.
Ben, on peut tout y passer effectivement à Ineos, où ben, en tout cas, pour l'instant, Carlos Rodriguez est dans la start list. Il ne devait pas faire la Vuelta. Et puis, vu la contre-performance, entre guillemets, hein, de l'Espagnol sur le tour, de manière générale de Ineos sur le tour, l'équipe a décidé apparemment de l'aligner sur cette Vuelta. Qu'est-ce que vous attendez finalement d'Ineos sur cette Vuelta?
J'attends
Je
Rodriguez, plus fort que sur le tour, j'espère. Mais je ne sais pas si on peut vraiment l'espérer. Et j'attends toujours de plus, qui est pour moi un potentiel énorme, donc à voir. Pas pour la victoire, hein, bien sûr, mais pour un beau top 10. Peut-être au-dessus de Bernal dans la hiérarchie Ineos, selon moi.
Mais en fait, oui, on m'a peut-être entendu un petit peu rire, mais c'est pas du tout moqueur envers Galaxity. Malheureusement, je pense qu'il ne sera pas dans la hiérarchie de base, en tout cas de départ devant, mais c'est vrai que c'est dommage. Hein, parce que quand on voit les performances de plus, c'est quand même vraiment costaud. Hein. J'aimerais tellement qu'il puisse jouer sa carte à un moment donné. Alors oui, il n'irait pas chercher la victoire, évidemment, mais il irait chercher un beau classement, je pense. Ineos, plus globalement, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Carlos Rodriguez, je sais pas, en doublant, en fait, je sais jamais très bien ce qu'on peut attendre des mecs qui doublent comme ça. Il a quand même fait le tour à fond. Oui, c'est une contre-performance, entre guillemets, comme tu l'as dit, mais on l'attendait mieux. Mais il a quand même fait tout le tour à fond. Repartir pour la Vuelta, je sais pas. Je pense que c'était Bernal le leader désigné, donc.
J'allais dire que depuis l'année dernière et cette année encore plus, on voit que pour certains, doubler n'est plus vraiment un souci. Donc je vais m'attendre à un fort Rodriguez. Et si ce n'est pas le cas, ce serait une nouvelle déception pour ma part.
Dans les prétendants, évidemment, top 10, il y a d'autres blocs, notamment le bloc Lidl Trek avec Giulio Ciccone qui est annoncé, qui, j'imagine, devrait viser les étapes. C'est ce qu'il devait déjà faire a priori hein, sur le Tour de France, rappelez-vous. Et puis, c'est le forfait de dernière minute de Tao Geoghegan Hart.
Le
C'est toujours
piège pour
compliqué
tous
à
ceux qui
dire ça.
font ouais, tous les
Voilà.
podcasteurs.
Exactement. Et qui ne sera pas là non plus sur cette Vuelta, au contraire de Skelmos, Mathias Skelmos. Et peut-être dans les coureurs prétendant au podium, parce que je pense que c'est ce que le Danois va viser, bah le seul qui n'a pas fait de grand tour depuis le début de la saison, qu'est-ce que vous attendez du Danois? Est-ce que ça peut être, on va parler de révélation, hein, parce qu'on connaît maintenant le Gaillard, mais est-ce que ça peut être finalement cette bonne surprise de la Vuelta? Ou au contraire, peut-être qu'en manquant de rythme, il risque de se faire vite.
Je l'attends acteur, présent, top 10, mais c'est pas celui, hormis tous les noms qu'on a déjà cités, c'est pas le premier que je citerai pour venir faire une éventuelle surprise pour le podium.
Tout pareil.
Ouais.
On a le même nom maintenant. Moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait un grand tour cette saison.
Mais
Enfin,
vas-y.
Bah oui, on l'a sûrement le même.
Thibéry. Ah.
Carapace. Ah, qui t'a dit? Ah, Tibéri, pardon.
Thibéry.
J'avais compris.
Eh
Ah
oui,
oui,
Carapace.
ah non. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas.
Ouais. On ne sait pas encore trop bien ce qu'il aura comme gars autour de lui. Hein. La compo de Barré n'est pas encore donnée. On sait juste que lui sera au départ. On peut imaginer qu'un Bilbao, par exemple, devrait suivre, de même qu'un Caruso. Donc ça peut donner un chouette collectif. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de UAE ou Visma ou Bora, mais ça peut être intéressant. Et tu citais Carapaz, ben,
Oui,
c'est
j'en
clair que
citerai plein
quand.
avant Tibéri, mais c'est vrai, t'as raison, hein, Alexis, en fait.
Ouais.
Carapace, oui, ben, il a montré de magnifiques choses sur le tour. Maintenant, il reste à voir. Est-ce que, s'il a pas de craquante, bien sûr, il peut être devant Tibéri, ça c'est clair et net. Mais à voir.
J'ai l'impression qu'il a pris le tour sur les étapes et que là, il voit qu'il y a une
Oui.
possibilité de le gagner. En fait, je pense que Carapaz, il s'est dit, bon, ça va, il y a Pogacar et Vingegaard au départ, qu'est-ce que tu veux que je joue au classement général? Mais là, il y a une ouverture. Il y a tellement personne qui est large au-dessus qu'il peut aller rechercher un nouveau grand tour. Donc, j'ai envie de croire qu'il peut jouer le classement et qu'il peut le faire, quoi.
C'est quelqu'un qui, avec le temps, on a tendance un petit peu à le faire reculer dans la hiérarchie, et c'est ce que je voulais te dire à propos de Roglic aussi. Tu dis il n'y a que personne de large au-dessus, et c'est vrai que Roglic, on ne le met plus dans ses coureurs larges au-dessus, mais le meilleur des Roglic devrait gagner cette Vuelta assez facilement. Maintenant, comme on n'a peut-être plus le meilleur des Roglic, et qu'on peut encore envisager avoir le meilleur Carapace vu ce qu'on a vu sur le tour, ben, en effet, Carapace, s'il n'a pas de craquante, s'il est à 100%, peut venir jouer la victoire.
Peut-être
Là.
un dernier bloc qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui arrive sur cette Vuelta avec, je sais pas du tout ce qui se fait de mieux dans son équipe, mais en tous les cas, tous les coureurs de classement généraux de Grand Tour, c'est Movistar, qui est toujours un petit bonbon hein, de cette Vuelta. Bah, Movistar, alors oui, on a vu Rubio sur le Giro faire quelques placettes et aller chercher son top 10. Tu viens d'évoquer pour Carapaz les chronos. Ben, Rubio est le premier concerné aussi par ses pertes de temps dans les chronos. Et derrière, que ce soit Quintana ou Mas, ce n'est pas forcément mieux au niveau des chronos. Mas qui a été très discret sur le Tour de France. Est-ce qu'il y est allé pour préparer sa Vuelta? Est-ce qu'il est allé pour essayer de faire quelque chose? Évidemment, ça, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette équipe Movistar et peut-être plus en particulier d'un Enric Mas?
Bah, Mas, Alexis parlait de ceux qui reculent dans la hiérarchie, alors
Ouais,
lui, il recule bien, bien, bien dans la hiérarchie. Moi, je n'entends pas grand-chose, et c'est pas que son tour, parce que son tour, ça reflète pas son niveau, évidemment. Hein. Mais je trouve que même sur les courses par étapes d'une semaine, durant la saison, il recule. Plus le temps passe, et plus il recule. Moi, il me semble en capacité d'aller jouer vraiment les tout premiers rôles. Alors, on sait qu'il est souvent bon sur la Vuelta, mais je dis pas qu'il va être à la ramasse. Hein. Mais c'est pas un mec qui va m'enthousiasmer parce que j'ai l'impression, bah oui, quelque part entre 5 et 10, quoi.
non, j'y crois plus non plus, moi, personnellement. Moi,
Moi,
toi, tu.
il y aura mon chouchou Pelayo Sanchez qui va pas faire un classement, mais je regarderai plus Pelayo que Mas, tu sais.
Par contre, je ne sais pas si vous voulez encore parler de Mas, mais un autre coureur qui, lui, pourrait remonter dans la hiérarchie après être descendu pendant plusieurs années, et c'est presque lui manquer de respect qu'on n'en ait pas encore parlé, c'est quand même Mikel Landa, qui a fait
Évidemment.
un super Tour de France. Et que c'est vrai qu'on a, même s'il est très apprécié, c'est vrai que c'est un coureur qu'on oublie toujours de mentionner, alors que si on a le Landa du Tour de France, il peut venir faire une immense Volta.
Il est sur ma feuille. Bon, s'il faut vraiment une preuve, il est sur ma feuille quelque part. Oui, évidemment. Après, si Almeida peut pas gagner une course, je sais pas si Landa peut en gagner une, mais il sera bien classé, oui, je pense.
J'allais
Ah oui.
faire exactement la même remarque.
Je ne le mets pas pour la victoire finale, hein, parce que c'est Landa, mais bon, et qu'il y a du chrono. Mais il peut faire une belle Volta, il peut être présent.
Ouais. Est-ce qu'il aura des gars autour de lui? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'il a besoin de gars autour de lui? C'est aussi à voir.
Serge
Mais
Mia, on ne
quelle est
sait
la
pas.
compo? Est-ce que William Lecerf fait cette
Pour
Vuelta?
l'instant, c'est le seul avec James Knox qui est
Voilà.
annoncé au départ
Ok.
aux côtés du Basque. Ouais.
Bon,
Donc, ce serait
ça
bizarre.
m'intéresse.
Ouais, moi aussi.
Après, voilà, il y en a encore beaucoup d'autres. Ce sera
Ouais.
intéressant de voir un Ben O'Connor, par exemple, qu'on avait vu très en forme sur le Giro. On aura toujours un œil attentif sur David Gaudu, sur Guillaume Martin, qui vont venir, je l'espère, jouer les étapes et pas les classements généraux. Mais de nouveau, pour des coureurs de cette envergure, quand vous prenez le départ d'un grand tour où il n'y a ni Pogacar, ni Vingegaard, même que Remco n'est pas là, c'est tentant d'aller faire un top 10. Ça rapporte des points UCI. On sait que certaines équipes sont pour l'instant un petit peu dans le dur. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus, évidemment, à cet égard. Si on revient un peu peut-être sur un focus un peu plutôt belge, on évoquait le cas de Kian Uytebroeks. On a aussi évoqué celui de Laurens De Plus. On n'a pas encore évoqué la nouvelle petite pépite en montagne, en tous les cas, de chez Lotto Destiny, Lennart Van Etvelt, très en vue sur la Classicoa. On rappelle que Lennart Van Etvelt avait remporté l'UAE Tour en début de saison, avant malheureusement de devoir s'interrompre plusieurs mois pour un problème de genou. Là, il revient à la compétition, tout de suite montre de belles choses, et il sera entouré quand même de chouettes gars. Manifestement, Maxime Van Gils n'est plus dans la présélection pour cette Vuelta, mais il y aura quand même des Harm van Hoogt, des Sylvain Moniquet, des mecs qui peuvent l'accompagner en montagne. Qu'est-ce que vous attendez donc de Lennart Van Etvel sur cette Vuelta? Est-ce que vous avez d'abord envie qu'il joue un classement général pour se tester, ou est-ce que vous l'imaginez plutôt jouer les étapes?
Hyper partagé en fait. Je vous avais prévu un petit jeu où je vais vous demander s'ils font top 10, s'il y a une étape, etc. Et ça aurait été un de mes premiers noms. Sauf que vous ne pourrez pas argumenter et que là, il faut argumenter sur l'inerte. Donc on va le mettre à part. Je crois que je préfère. Allez, je crois que je préfère le voir faire une carapace comme sur le tour de cette année. Pour cette année-ci. Même si je serais très 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 curieux de voir comment il peut tenir sur 3 semaines. C'est pour ça que je suis partagé quand même. J'ai pas une énorme préférence, mais j'aurais peur que ça le bloque trop dans des victoires d'étape, etc. S'il joue au classement. J'aimerais le voir éclabousser de sa classe, partir souvent à l'offensive. Pourquoi pas un maillot de meilleur grimpeur, vraiment animer la Vuelta, quoi.
Je serais ravi avec les deux, moi, honnêtement. Après, peut-être une petite préférence pour les étapes, parce qu'il y a quand même quelques étapes avec des enchaînements de cols qui pourraient lui faire mal. Mais de manière générale, et je vais un petit peu me contredire, mais de manière générale, la Volta est justement le genre de contour qui lui convient, je pense, un petit peu mieux, avec beaucoup de courses de côte, des cols un peu plus explosifs, un peu moins longs, moins d'enchaînement. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de le voir sur 3 semaines sur ce genre de parcours. Mais il y aura quand même quelques étapes assez pièges pour lui. Donc, le risque de défaillance, et donc je serais tout le temps ravi de le voir viser les étapes qui lui conviennent.
Et moi, j'ai une question pour vous sur Van Etvelt. J'écoutais le coup tordu, coucou aux copains du coup tordu. Et Vincent place Van Etvelt comme un des mecs donc à venir, hein, les plus proches derrière les GOAT, derrière Pogacar, Vingegaard, etc. Vincent croit énormément en Van Etvelt et dit que s'il y a bien un gars qui peut venir là monter dans la hiérarchie et venir enfin, tout près de ces gars-là, être le meilleur derrière ces gars-là, ça pourrait être Van Etvelt. Vous y croyez à ça?
J'aurais du mal à me projeter à ce niveau-là. Ouais, j'arriverais pas à dire oui, mais après, j'avoue que je connais pas assez le potentiel du gamin et je pense qu'il est assez grand, donc pourquoi pas.
Disons qu'il faudra voir ce que ça donne sur 3 semaines, ça, on ne le sait pas du tout. Mais c'est vrai que sur une course d'une semaine comme l'UAE Tour,
Ouais.
on a vu qu'il pouvait être présent, qu'il pouvait répondre et qu'il reste très très jeune. Donc s'il continue à progresser comme ça, est-ce qu'on pourrait retrouver un Van Etvelt dans un petit ventre mou avec des Almeida, des Adam Yates, des Landa pour les comparer en termes de niveau? Pourquoi pas? En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur grimpeur qu'on ait depuis le regretté Björn Lambrecht en Belgique. On a beaucoup évoqué Kenuith Brooks sur les longs cols qui lui conviennent bien. J'ai l'impression que Lennart Van Etvelt est encore un peu plus pur grimpeur que lui, dans la mesure où, peu importe que ce soit des longs cols, des courts cols, des côtes, il s'en sort assez bien partout dès que la route s'élève. Donc voilà. Après, je suis très curieux de Van Etvelt. J'aime beaucoup le coureur. Et je trouve que tant qu'il reste dans cette équipe Lotto Destiny, il n'a pas la pression et il ne peut faire que grandir. Donc je n'ai pas vraiment d'attente spécifique, mais je suis très 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 curieux effectivement de voir où il va aller. De là, effectivement, à le mettre juste en dessous des Pogacar, Vingegaard. Ça, non, j'ai pas l'impression. Après, est-ce qu'il peut faire une Tibéri, oui, ou un truc comme ça?
Oui, mais tu
Je sais
vois,
pas.
on s'est tous emballés avec certains classements. Alors oui, c'est pas encore la même chose. Hein. Il n'a pas gagné en surclassement comme Kian l'a fait en étant le plus jeune et tout ça. Mais il a fait deuxième de Baby Giro aussi, quand tu vois le tour qu'il fait. Donc c'est vrai que je peux comprendre. Alors je ne suis pas encore au point de Vincent. Hein. Je ne vais pas non plus dire ce mec va devenir le meilleur derrière les tout meilleurs. Mais ouais, je sais pas, ça m'a interpellé de l'entendre. D'autant plus que ça vient pas de la bouche d'un Belge où on pourrait se dire ouais mais c'est parce que c'est un Belge etc. Donc je pense que Vincent c'est quelqu'un qui le dit vraiment en toute objectivité. Bon après ce n'est qu'un avis parmi d'autres hein, mais voilà ça m'a un peu interpellé.
Ouais. Ok, ben voilà en tout cas toute une série de coureurs qu'on suivra évidemment sur cette Vuelta. Il y en aura évidemment beaucoup d'autres. On va pas repasser en revue tous les coureurs annoncés. Par contre, pour terminer ce numéro sur la Vuelta, Damien, tu nous as concocté un petit jeu ou en tout cas un petit questionnaire dont tu as le secret.
Vous savez, comme j'aime vous frustrer, vous aimez parler, et je vais vous demander encore une fois de juste répondre à la question sans argumenter. Donc vous avez le droit entre quatre réponses. C'est top 10 du classement général. Donc ouais, top 10. Étape, vainqueur d'étape. Aucun des deux. Ou les deux. Ok? Et je vous ai sélectionné quelques noms. On est parti. Finalement, on l'a pas quand même tant dit parce qu'on a plutôt dit ce qu'on espérait. Donc je vais quand même vous poser la question sur Van Etvelt. Est-ce qu'il va faire un top 10 du classement? Est-ce qu'il va gagner une étape? Aucun des deux ou les deux?
Alors moi je pense qu'il est capable de chercher un top 10 mais qu'il va jouer les étapes et qu'il va aller chercher une étape.
Ok,
Les
étape.
deux.
Les deux? Ok, c'est super. J'avais noté ce nom, Richie Taylor.
Moi, non. Top 10, allez. Mais si t'as trop de noms, je risque de donner 15 gars top 10. Hein, donc... non, top 10, pas d'étape.
Oui, je dirais rien,
Aucun
pas
des deux.
d'étape, mais pas top 10 non plus, aucun des deux.
Il y a trop de nombres qui sont à top 10. Hein,
Ouais, on l'a évoqué durant cet épisode. Toi, Romain, t'en parlais carrément d'un podium, donc Skelmose.
Top 10, pas d'étape.
Pas d'étape non plus, mais je le vois effectivement dans le top 10 sans trop de problèmes.
Ok. Alors, il y a des noms dont on a parlé, donc je vais les passer, ça ne sert à rien de revenir dessus. Max Poul.
Ouais, il est relativement. Il a montré des belles choses, mais il y a quand même une belle densité, donc je veux dire aucun des deux, peut-être trop tôt. Ou alors étape, s'il est lâché au. Ça commence à argumenter, hein, mais. Non, ok, je veux dire étape.
Ok.
Ouais, je vais dire aucun des deux, Mais c'est vrai que s'il est assez rapidement éloigné du général, c'est le genre de mec qui, en deuxième semaine, voire en troisième semaine, peut aller en gagner une dans une échappée. Ça, clairement. Et le top 10, je le vois devant un gars comme Richie Tello, dont on a parlé juste avant. Mais de là, intégrer le top 10, ça me semble compliqué. Maintenant, c'est vraiment le genre de gars, j'ai l'impression, qui peut être cette. De nouveau, pas révélation surprise, c'est quelqu'un qu'on commence à connaître, mais ça peut être ce gars qu'on n'attendait pas forcément dans le top 10, mais qui sera au final.
Ok. Alors, je vais vous demander votre avis sur Isaac Del Toro.
Ça, alors, étape non, il n'ira pas faire d'étape parce qu'il va devoir bosser pour les autres, je pense. Et la question, ça va être, est-ce qu'il se relèvera quand il aura fini de bosser ou pas? S'il se relève, rien du tout. S'il se relève pas, top 10.
Je vais aussi dire trop de mots par rapport à ce que j'ai le droit, mais je vais dire en potentiel les deux, en définitive, aucun des deux.
Alors, je vous propose de terminer avec trois Français. David Goudu.
Pour être gentil, parce que je pense que contrairement, voilà, Pogacar et Vingegaard ne sont pas là, donc il y aura plus d'étapes accordées aux échappés. Et s'il a l'intelligence de viser les étapes, il pourra aller en chercher une.
Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Alexis. Sa forme sur le tour ne m'a pas rassuré pour aller chercher une étape. Mais effectivement, il y aura peut-être plus d'opportunités. Et donc, s'il y a plus d'opportunités, il y a plus de chances qu'il en cherche une. Donc, je vais dire, pour être optimiste, et comme on a beaucoup parlé des Belges, je vais dire, allez, étape.
Lenny Martinez.
Aucun des deux.
Ouais, non, aucun des deux. Bon, pareil, on peut tenter le top 10, mais là, aucun des deux.
Vous le pensez totalement lessivé, en fait, là, pour cette fin de saison?
Oui, et pas forcément physiquement. Je pense qu'il
D'accord.
est cramé à tout niveau, et ça aurait été vraiment intéressant de voir sur cette Vuelta sans qu'il ait fait le Tour de France avant. Mais le fait qu'il ait fait le Tour de France dans des conditions quand même très particulières, son transfert, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font que je ne sais pas ce qu'on doit en attendre. Je le lui souhaite, hein, franchement, d'aller chercher une étape. On se rappelle quand même qu'il a porté le maillot rouge la saison passée. Donc voilà, il va peut-être avoir ce sursaut nécessaire pour aller chercher quelque chose. Mais j'ai un peu peur que ce soit un peu limite, d'autant qu'il y a Gaudu juste à côté de nouveau. Hein, donc voilà.
Alors les amis, pour terminer, je vais vous demander votre avis sur celui qui va peut-être bientôt devenir le Français préféré des Belges, Valentin Paré-Peintre.
Étape.
Oui, pas top 10 parce que ce serait la chasse gardée d'O'Connor.
Voilà,
Mais
il n'y a pas.
il était tellement impressionnant sur le Giro et il y a tellement d'arrivées ici en côte que, ouais, peut-être bien étape. Plus
Ok.
vite que, je vais même me mouiller un peu, plus vite qu'un Gaudu ou qu'un
Ah oui,
Martinez qu'on vient de citer.
pour moi, oui, pour moi, clairement aussi.
Surtout qu'il a quand même démontré sur le Giro qu'il a cette science de pouvoir prendre la bonne échappée. Et il a cette lecture de la course que pour pouvoir savoir quand il doit attaquer. Et moi, alors je ne l'ai pas vu depuis le Giro, j'avoue, mais sur le Giro, c'était pour moi la révélation, la surprise même. Parce qu'autant qu'on connaissait un petit peu son frère, Aurélien, autant lui, je n'avais jamais vraiment vu ce qu'il pouvait nous réserver. Et là, impressionnant et super recrue, je pense, pour l'équipe Soudal au passage.
Si on a le Valentin du Giro, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sera la plus grande chance des Français, à la limite, pour aller chercher une étape. Ok, voilà, bah j'avais d'autres noms, mais on en a déjà un peu parlé, donc on va pas revenir dessus.
En tous les cas, beaucoup de beau monde malgré tout, malgré l'absence des fantastiques, beaucoup de beau monde au départ de cette Vuelta avec le tenant du titre, Sepp Kuss, qui va tenter de doubler, mais il y a beaucoup d'autres gars derrière capables d'aller chercher cette victoire, on verra. En tous les cas, Alexis, Damien, merci d'avoir pris un petit peu de temps durant vos vacances, hein, on le rappelle, pour faire ce numéro. Et ben, on se retrouvera assez rapidement après la Volta pour débriefer un peu tout ça et pour évoquer déjà la suite et la fin de saison avec notamment les mondiaux de Zurich. Ça sera pour très bientôt. Allez, ciao
Salut,
tout le
salut.
monde.
Salut tout le
Ciao, ciao.
monde.